France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'affaire Paul Touvier. Responsable de la milice de Lyon pendant la guerre, cette engeance en uniforme qui raquettait, torturait et assassinait les résistants et les juifs. Paul Touvier, ce nazi français deux fois condamné à mort au lendemain de la guerre. Ce criminel en cavale qui a pourtant obtenu la grâce présidentielle. Ce vieillard qui, après un demi-siècle de fuite, a tout de même été le premier français condamné pour crime contre l'humanité. Paul Touvier, qui pendant plusieurs décennies a réussi à se cacher grâce à l'appui d'une dizaine de religieux catholiques. Mais l'affaire Touvier dépasse Touvier. Derrière le monstre se cache quelque chose de beaucoup plus vaste que lui. Après la guerre, il devient l'incarnation de la collaboration et de Vichy. Et il réapparaît par un coup dans l'actualité tout au long d'un demi-siècle, comme une ombre revenant hanter les mémoires qui ne s'apaisent jamais, comme le sinistre fantôme de ce passé qui décidément ne passe pas. Notre invité aujourd'hui, Claude Grelier, ancien juge d'instruction. Il a instruit l'affaire Touvier de 1985 à 1989. Il nous attend dans les studios de France Bleu, Loire-Lozère, Gare-Lozère, à Nîmes. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Romain Weber, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter.
Quand le juge d'instruction Claude Grelier en hérite, le 18 novembre 1985, le dossier Touvier cumule des milliers de pièces, mais il est à l'arrêt. « Ne perds pas ton temps avec cette affaire, lui dit-on. Touvier, tout le monde s'en fiche. Il est sans doute mort ou à l'étranger. » Tout le monde s'en fiche? Vraiment? Un dossier si fourni? Il semble au contraire que certains y aient accordé de l'importance. Alors le juge Grelier l'ouvre et s'y plonge. Ce dont on accuse Touvier date donc de la guerre, de la période où il était l'un des responsables de la milice à Lyon. Le juge est particulièrement saisi par l'horreur que dégage une série de photos qu'il a sous les yeux. Ce sont des corps, morts, piteusement jonchés sur un trottoir. La plupart ont les yeux ouverts et une expression de terreur. Ils s'appellent Glaser, Zeisig, Benzimra, Schlisselmann, Krikowski, Prok, et le septième n'a pas de nom. Inconnu, paraissant 25 ans, est-il mentionné. 7 juifs. Ils ont été assassinés par la milice le 29 juin 1944, et Touvier avoue les avoir choisis. C'est l'une des exactions qui lui valent d'être poursuivi pour crime contre l'humanité. Mais Touvier n'a jamais purgé de peine, et le juge découvre que son histoire va de bizarrerie en étrangeté. Arrêté en 1947, il a miraculeusement réussi à s'évader. La police ne l'a jamais retrouvé alors qu'il vivait chez son père. Et, plus étonnant encore, il était gracié en 1972. 13 ans ont passé, Touvier est à nouveau poursuivi, mais il est introuvable. Le juge Grelier, lui, n'a pas l'intention de laisser mourir cette affaire. Et il commence par se rendre à l'adresse qu'indique une fausse carte d'identité présente dans le dossier. Prénom Paul, nom Berthet, résident au 1 place de Fourvière à Lyon. Étonnant, c'est l'adresse de l'archevêché. Pourquoi ce condamné à mort en cavale a-t-il été domicilié ici? Devant la basilique Notre-Dame de Fourvière, le juge s'interroge en regardant Lyon que l'église surplombe. De cette colline, on distingue la place Bellecour, sur laquelle une FNAC vient de s'installer. C'était dans ce bâtiment que siégeait la milice. Juste devant cette place, où Jean Moulin, Léo Braque et autres résistants se donnaient rendez-vous. Et là-bas, derrière le Rhône, ce grand édifice gris que longent les voies qui sortent de Perrache, c'est là qu'était la Gestapo. Depuis la colline de Fourvière, sous les yeux du magistrat, ressurgit un passé douloureux. Rappelons que sévissait également dans la capitale des Gaules un certain Klaus Barbie. Le dossier Touvier fait revivre cette période. Page après page, il égrène les crimes du milicien, autant de blessures qui attendent que leur auteur soit puni pour commencer enfin à se cicatriser.
À genoux ! Je m'engage sur l'honneur à servir la France et le maréchal Pétain, chef de la Légion, à consacrer toutes mes forces à faire triompher la révolution nationale et son idéal, suivant les ordres de mes chefs et la discipline librement acceptée du SOL. SOL, debout !
Ce serment, Paul Touvier l'a prêté. Oh, ce n'est pas encore le serment de la milice, c'est celui de son ancêtre, le service d'ordre légionnaire, le SOL. Créé par Vichy, ce groupe paramilitaire annonce ses ambitions dans un texte appelé « Les 21 points du SOL », qui dit, par exemple, « Contre le bolchevisme, pour le nationalisme » ou « Contre la lèpre juive, pour la pureté française ». Et le jour où Touvier s'engage, il n'oublie pas, comme tous les autres, le 21e et dernier point de la liste qui dit « Contre l'oubli des crimes, pour le châtiment des responsables ». Voici donc l'histoire d'un homme qui n'a jamais été aussi heureux que lorsque la France était écrasée, qui s'est épanoui dans le déchirement de son pays, comme beaucoup de ratés, de minables de la société démocratique d'avant-guerre et qui formeront l'un des gros bataillons des traîtres français pendant l'occupation comme une revanche. Ils forment la cohorte des collabos actifs, dont le zèle assassin n'a rien eu à envier à celui de leur maître, les nazis. Touvier est né en 1915, dans les Alpes. Un père militaire, une famille catholique, anticommuniste, antisémite, une éducation typique de la droite maurassienne, un cerveau déjà lessivé par la haine. Mais Touvier ne milite pas avant la guerre, non. Ce jeune homme moyen, très moyen, qui jusqu'alors ne se fait remarquer ni pour ses compétences intellectuelles, ni par ses qualités physiques, attend l'occupation pour s'engager sans aucun risque au nom de ses convictions. Vichy est là pour ça. Ce qui le conduit jusqu'à la milice créée en janvier 1943. La milice est un organe totalitaire, de type fasciste, du genre « tu ne penses pas comme moi, je t'élimine », et qui prépare la construction d'une Europe nazie. Touvier s'y plaît. C'est un bon milicien. Alors il gravit les échelons jusqu'à devenir l'un des chefs de la région Rhône-Alpes. Il collectionne les renseignements sur les résistants et les juifs qu'il transmet ensuite à la Gestapo. Ses locaux à Lyon servent de prison et, comme ses semblables, délinquants en uniforme, il se spécialise dans la spoliation, en d'autres termes, il pille. Il loge sa maîtresse dans un appartement qu'il a vidé de ses propriétaires, juifs bien sûr. Il récupère l'argent, les meubles et les voitures des martyrs. Sans pitié, animé par sa cupidité, il est également au moins complice d'assassinat. Ceux de Victor Bach, le président de la Ligue des droits de l'homme et de son épouse. Et ceux, le 29 juin 1944, à Rieux-la-Pape, au nord de Lyon, de 7 juifs fusillés en représailles du meurtre de Philippe Henriot, vedette de la milice, incendiaire, abattue par des résistants. Alors les miliciens de Lyon assassinent 7 juifs au hasard, donc, pour venger leur grand homme. Et c'est Touvier qui les a choisis, et c'est lui qui a donné l'ordre de les assassiner. À la Libération, comme beaucoup de ses semblables, portant lâcheté en bandoulière, il se cache. Il n'a que 29 ans, mais plus jamais il ne sera un homme libre. Jusqu'à son arrestation, il restera en cavale perpétuelle. Son premier refuge, le presbytère d'un certain abbé Vautrin. Touvier raconte, des années plus tard.
Tout à coup, il y a eu une bande d'hommes armés qui ont sonné au portail en bas. L'abbé Vautrin leur a répondu d'en haut. Une troupe a envahi la maison et lui a dit « Tu caches un chef de la milice. » Il les a accompagnés partout. Et quand il est arrivé dans la pièce où il y avait le plancher sous lequel j'étais caché, il s'est planté au milieu. Puis il a dit « Cherchez. » Alors les garçons ont regardé. Ils ont fait le tour de la maison et ils sont repartis. Il les a accompagnés. Il est remonté. Il m'a dit « Il faut partir tout de suite. »
C'est d'abord dans d'autres cachettes à Lyon, puis à Montpellier, que Touvier se terre comme un rat. Et déjà sous la protection de la croix, puisque c'est dans des couvents ou des monastères qu'il se réfugie, grâce à un réseau ecclésiastique qu'il connaît depuis toujours. En 1946, il est condamné à mort par contumace à Lyon. Même chose l'année suivante à Chambéry. Contumace, oui, car il court toujours. Il est tout de même arrêté en 1947 à Paris. Effrayé à l'idée de monter sur l'échafaud, il donne tous les noms qu'il connaît, y compris ceux des hommes d'église qui l'ont aidé. Puis, étrangement laissé seul dans une pièce, la porte ouverte, il sort du commissariat comme on sort d'une boulangerie, et il disparaît. La vérité, c'est que dans le tumulte de l'après-guerre, on oublie le nom de Paul Touvier, Les hauts responsables de Vichy et de la milice sont jugés. Touvier n'en est pas un haut responsable. Et il s'évapore sans créer de remous. Ainsi le temps passe, les décennies. Touvier a disparu en 1947 à l'âge de 32 ans. Il en a donc 59 en 72 quand un journaliste retrouve sa trace. Ce journaliste s'appelle Jacques Desrogis et il travaille pour l'Express sur Klaus Barbie, le chef de la Gestapo de Lyon, qui vient d'être identifié en Bolivie.
Donc je vais voir la mouvance de la résistance et un de ses anciens résistants me dit « Oui, mais enfin Barbie était allemand tandis que Touvier est français. » Je lui dis « Touvier, qui sait ? Jamais entendu parler. » Et en réalité, me dit-il, c'était le chef du service de renseignement de la milice pour la région Rhône-Alpes. C'est-à-dire que c'était quand même un cadre quand même relativement important. Mais, me dit-il, on le croyait mort à la libération, sauf que certains d'entre nous sentaient quelque anguille sous roche dans la mesure où Mgr du Caire, qui était le secrétaire des cardinaux Gerlier puis Villot, avait fait le tour des rescapés des geôles de la milice pour essayer d'avoir des attestations en vue d'un décret de grâce. Alors moi, je commence à faire le tour des gens qui ont signé des attestations ou qui ont été sollicités par Mgr du Caire. Et le dernier que je vois à Paris, le professeur Gabriel Marcel de l'Institut, philosophe, pape de l'existentialisme chrétien, me dit « J'ai interdit ma porte à nommé Touvier. » Je lui dis « Comment vous avez fait ?» Ben, il me dit « Je lui ai écrit une lettre. » Je dis « Bon ?» Il dit « Voilà la photocopie de cette lettre. » Enfin, le double. Monsieur Paul Berthet, 3, chemin des Charmettes, Chambéry.
21 mai 1972, Chambéry. Un livreur se présente au numéro 3 de la rue des Charmettes, un bouquet de fleurs à la main. Le portail est fermé, il sonne. Plusieurs fois, rien. Mais un volet à l'étage finit par s'ouvrir, prudemment. Et apparaît un homme en robe de chambre, l'air renfrogné. Il regarde tout en restant dans l'ombre. Et cet homme, c'est Paul Touvier. De l'autre côté de la rue, Jacques Desrogis lui est planqué derrière un buisson avec un photographe qui capture cet instant. Et puis un autre homme, plus jeune, c'est le fils Touvier, finit par sortir. Il vient au portail chercher ce qu'apporte le livreur. C'est un bouquet de 7 glaïeuls rouges, accompagné d'un billet écrit par Jacques Desrogis. Il y est inscrit « Avec le meilleur souvenir de Klaus Barbie ». L'article du journaliste qui paraît dans l'Express est retentissant. La France avait oublié Touvier, et le voilà qui revient, et le passé avec. Mais Desrogis sait maintenant que Touvier vit tranquillement à Chambéry, et qu'un évêque, Mgr du Caire, secrétaire de l'archevêché de Lyon, a passé plus d'une décennie à tenter d'annuler les poursuites contre l'ancien milicien. Et c'est lui qui a fourni à Touvier la fausse carte d'identité à l'adresse de l'archevêché, celle que le juge Grelier découvrira dans le dossier. Avec une énergie extraordinaire, minimisant ses crimes, apitoyant les uns et les autres sur le sort de ce pauvre homme persécuté et sur celui pire de sa femme et de ses deux enfants, il parvient à décrocher la grâce présidentielle, celle de Georges Pompidou, en l'occurrence. Dans ces années 70 où l'on chasse les nazis, où historiens, cinéastes, écrivains commencent à fouiller l'histoire de l'occupation, cette grâce en met beaucoup mal à l'aise. Le général de Gaulle, approché par le même Mgr du Caire, aurait répondu pour sa part « Touvier, 12 balles dans la peau ». Mais Pompidou n'est pas de Gaulle. Lui n'était pas résistant et il s'est laissé convaincre, mais il est contraint de s'expliquer.
Allons-nous éternellement entretenir saignante les plaies de nos désaccords nationaux? Le moment n'est-il pas venu de jeter le voile, d'oublier ces temps où les Français ne s'aimaient pas, s'entre-déchirer et même s'entre-tuer? Et je ne dis pas ça, même s'il y a ici des esprits forts, par calcul politique, je le dis par respect de la France.
Mais les mémoires peuvent-elles s'apaiser sans qu'il y eût justice? Les résistants, les enfants déportés, les orphelins de guerre, tous ceux qui ont tant souffert des horreurs de la milice manifestent. Certains font savoir qu'ils veulent éliminer Touvier. 350 articles dans le mois qui suit, presque 2000 au cours de l'année 72. Tout le monde l'avait oublié, mais voilà Touvier brusquement projeté au cœur de l'actualité. D'autant que, dans sa maison qu'il a fui, on retrouve une bande magnétique. L'enregistrement d'un entretien destiné à sa demande de grâce. Sur ce document sonore, Touvier, comme d'habitude, minimise ses crimes, prétend qu'il n'était qu'un petit exécutant, qu'il n'a jamais ni tué ni torturé. mais il a bien participé à l'exécution des 7 juifs à Rio. Pourquoi avoue-t-il cela? Eh bien, c'est parce qu'il prétend avoir agi sous la pression des Allemands et avoir choisi de tuer 7 juifs quand on lui en demandait 30. Et il n'est donc pas coupable, puisqu'il a sauvé des vies. Un raisonnement pervers qu'il tient 2 ans plus tard sur Antenne 2, grotesquement affublé de lunettes noires et d'une perruque.
Finalement, j'ai été obligé d'accepter de faire fusiller 30 personnes. Vous entendez? Les personnes les prendre où? Dans les prisons. Nous avons été contraints et forcés, parce que dites-moi ce qu'il aurait fallu faire. Dire non aux Allemands, les Allemands en auraient tué de 100.
Mais vous saviez qu'ils allaient être fusillés?
Oui. Oui. J'avoue, je le savais. Mais comment fallait-il faire? Dites-moi ce qu'il fallait faire face aux Allemands. J'ai fait mon devoir en évitant le pire.
Le raisonnement est surtout catastrophique pour tout vieux. Parce que les enfants des victimes ne savaient pas que ce fuyard avait un lien avec ces horreurs. Maintenant, ils le savent. Et sa grâce en devient encore plus intolérable. Et les familles victimes déposent plainte. Pour crime contre l'humanité, cette fois. Plus de 30 ans après la libération, l'affaire Touvy reprend. En fait, elle commence véritablement. Mais l'ancien milicien et sa famille disparaissent pour la 2e fois.
Jean de milice et complice des polices de Vichy traque nos frères réfractaires qui se terrent dans le maquis. Mercenaires, tortionnaires, sanguinaires, bons à tout. Les souffrances de la France crient vengeance contre vous, fous sadiques. Hystérique, domestique de Berlin, pour le boche qui s'accroche, leur approche de sa fin, sa vengeance sans consignance ni décence. Vous devrez, tristes êtres, disparaître pour les traîtres. Pas de pitié.
Aujourd'hui, le dossier Paul Touvier.
France Inter, affaires sensibles.
Qu'est-ce qu'un crime contre l'humanité? C'est une notion apparue à Nuremberg en 1945. C'est un acte criminel à l'encontre d'un groupe humain violant gravement les droits de la personne pour des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux. Et un tel crime n'est pas prescriptible. Mais encore faut-il en trouver, parmi ceux dont on accuse Touvier, qui ne soit pas jugé et qu'on puisse prouver. Rapidement, la justice identifie les assassinats de Rio comme l'un des seuls crimes entrant dans cette catégorie. Après plusieurs années de procédure, la justice tranche. Le 27 novembre 1981, un mandat d'arrêt est émis contre Touvier. Entre-temps, la juge d'instruction, Martine Anzani, a entendu un témoin décisif. Il s'appelle Louis Goudard. Il était résistant à Lyon et il était présent dans les locaux de la milice avec les juifs qui ont été assassinés. Cette nuit-là, un milicien, Henri Gonnet, l'avait d'abord mis dans la liste des personnes à exécuter. Il raconte.
Alors, il m'a donc fait passer à travers le couloir, mis à côté des juifs alignés contre le mur et du temps où j'ai traversé le couloir, en regardant à gauche, j'ai vu monter Touvier. Et aussitôt, il s'est dirigé vers Gonnet, qui était derrière moi. Ils ont discuté, j'ai eu l'impression que Gonnet se faisait engueuler. Et aussitôt après, ce laps de temps, Gonnet m'a saisi par l'épaule et m'a rejeté en cellule.
Donc Touvier voulait fusiller uniquement des Israélites.
Oui.
La justice ne sait pas où est Touvier. C'était pendant la guerre un professionnel de la traque. Caché depuis 40 ans, il est maintenant un expert de la clandestinité. Il a 70 ans. Et chaque jour qui passe rapproche celui où il disparaîtra pour de bon sans avoir été puni. Et le 20 septembre 1984...
Bien que la nouvelle ne soit pas encore officiellement confirmée, il est à peu près sûr que Paul Touvier est mort ces dernières semaines. Dominique Thiers.
Paul Touvier vivait en homme traqué depuis 1945. Mais hier, on apprend sa mort par une petite annonce publiée dans le Dauphiné Libéré. L'annonce est discrète et sibylline. C'est un message de remerciement adressé aux membres des familles Touvier et Berthet, le nom de la femme de Paul Touvier. Ni la date, ni le lieu du décès ne sont précisés.
Pour les familles des victimes, la mort de Touvier est une grande déception, et plus encore. Mais pour la juge d'instruction, c'est une grande arnaque. Son état civil n'a pas été modifié et aucun cimetière n'a noté le décès. Pour la magistrate, Touvier court toujours. Nous sommes maintenant en 1985 et c'est au tour du juge Grandlieu d'être saisi de l'affaire. Toujours est-il que depuis 4 ans que Touvier est mis en examen pour crime contre l'humanité, il n'a jamais été inquiété. Et cela, le juge ne le comprend pas. Il appelle alors des commissariats pour vérifier que le mandat d'arrêt leur est bien parvenu. Et, surprise, il apprend que non. Ahurissant, la police n'a pas reçu l'ordre de chercher Touvier. Le fugitif avait-il des soutiens au sein de l'État ou de la police? C'est ce que peut-être le juge soupçonne. Et c'est un comble pour Touvier, qui ne sait pas, lui, qu'il se fatigue à se cacher alors que personne ne le cherche. Le juge Grandlieu décide donc de retirer l'affaire à la police et de la confier à la gendarmerie. C'est le lieutenant-colonel Jean-Louis Recordon qui mène l'enquête. Un travail fastidieux. Éplucher les dossiers administratifs pour retrouver la trace de la famille Touvier, connue sous plusieurs pseudos. Mais rien n'apparaît. Et puis, pour qu'il n'y ait ni compte bancaire, ni sécu, ni facture d'électricité, il faut nécessairement que Touvier ait été aidé. Mais par qui? L'affaire de la Grâce a révélé sa proximité avec des hommes d'église. Alors, les gendarmes mettent sur écoute plusieurs abbayes. Les premiers temps ne révèlent pas grand-chose. Mais une information anonyme oriente l'enquête vers un certain abbé Lafont, fondateur d'un groupuscule appelé l'Ordre des Chevaliers de Notre-Dame. Louis-Marie Auraud, journaliste au Canard Enchaîné, explique sur France Inter qui sont ces personnages.
Les Chevaliers de Notre-Dame sont une sorte de secte, ou en tout cas une organisation secrète qui a des rites. Ces gens-là se déguisent, ils se déguisent en chevaliers, ils se réunissent de façon un peu secrète. Tous ces gens-là avaient tous en commun leur nostalgie pour le régime de Vichy, leur affection particulière pour les collaborateurs et les anciens miliciens, et d'une façon générale pour l'extrême droite qui flirte avec les mouvements intégristes.
Le Canard Enchaîné a eu l'idée lui aussi de gratter du côté de ces fous de Dieu, et le journaliste Hervé Liffrand a eu la bonne idée d'aller faire un tour à l'une de leurs réunions. Elle a lieu au Sacré-Cœur, à Paris. Et c'est un drôle de cirque. Habillés en chevalier, en écuyer ou en moine, ils écoutent les anciens ressasser des leçons de vie. Et l'un d'eux raconte, sans se cacher, ses souvenirs de jeunesse lorsqu'il était volontaire dans la Waffen-SS. Cet homme s'appelle Jean-Pierre Lefebvre. Intégriste parmi les intégristes, il milite pour la réhabilitation de Rudolf Hess, par exemple, aborde la démocratie et la libération ou vient en aide aux fugitifs de l'OS. Et comme il ne se cache pas, en plein milieu du Sacré-Cœur, d'être un nazi, pourquoi garder pour lui qu'il connaît Paul Touvier? Alors, ce personnage vulgaire et cynique raconte, sourire aux lèvres, comment il l'a caché dans le coffre de sa voiture en 1983, alors qu'il risquait d'être découvert. C'est donc maintenant certain, ces fanatiques sont derrière sa cavale. La gendarmerie l'a compris, elle aussi. Le 22 mai 89, les gendarmes sont en mission dans le Pas-de-Calais à l'abbaye de Visca. C'est celle de Lafont, le fondateur de l'ordre. Bravache, il leur lance « De toute façon, vous ne l'attraperez pas ». Il leur avoue tout de même que Lefebvre en sait plus que lui. D'autres gendarmes se trouvent précisément devant le domicile de cet homme en banlieue parisienne. Ils entrent et découvrent des documents prouvant que les chevaliers versent 3000 francs par mois à Paul Touvier. Pour le retrouver, il faut donc suivre l'argent. Et Lefebvre lâche le nom d'une femme, Geneviève Pedoux, qui à son tour donne l'adresse d'un certain Pierre Tilly. Puis cet homme donne aux gendarmes le nom du dernier endroit auquel il a envoyé les billets, l'abbaye Saint-Michel dans l'Indre. De Paris jusque dans le Berry, les gendarmes filent en voiture pour perquisitionner l'abbaye. Devant l'abbé scandalisé, les enquêteurs fouillent les lieux et découvrent quatre valises marquées Paul Lacroix. C'est l'un des pseudonymes de Paul Touvier. Alors ils les ouvrent, ces valises. 5 ans plus tard, au procès de Paul Touvier, le lieutenant-colonel Recordon raconte.
Et dans l'une de ces valises, la première chose qui m'est apparue, c'est une enveloppe en matière plastique transparente dans laquelle il y avait des écussons de l'armée allemande, il y avait des croix gammées et à côté une autre enveloppe ou un sachet opaque qui a été ouvert dans lequel se trouvaient des écussons métalliques portant la croix gammée. Il y avait également une croix de fer avec son ruban tout à fait caractéristique rouge, blanc, noir. Donc j'ai bien vu que c'était des écussons nazis.
Et l'abbé donne aux enquêteurs l'endroit où se trouve Touvier, le prieuré Saint-François à Nice. Alors les gendarmes se remettent en route, parcourent la moitié de la France en cette nuit du 23 au 24 mai 1989. Au petit matin, ils entrent dans ce prieuré intégriste, se précipitent à l'étage, ouvrent les portes les unes après les autres, jusqu'à ouvrir la bonne. À l'intérieur d'une petite pièce austère, au pied du lit en robe de chambre, Paul Touvier se pétrifie. C'est la fin d'une fuite qui aura duré 45 ans.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Une édition spéciale ce soir consacrée, bien sûr, à l'arrestation de Paul Touvier, celui qu'on a appelé avant Klaus Barbie, le bourreau de Lyon. Il était le chef du service de renseignement et d'action de la milice, une pièce maîtresse de la collaboration. L'arrestation a eu lieu ce matin dans le Vieux-Nice, très précisément dans ce prieuré Saint-François. Les gendarmes de la section des recherches de Paris sont arrivés à 7h du matin et en sont ressortis 2h30 plus tard, encadrant Paul Touvier, âgé de 74 ans. Paul Touvier se cachait sous le pseudonyme de Paul Lacroix dans ce prieuré appartenant à la ville de Nice et qui est tenu par des intégristes fidèles à Monseigneur Lefebvre.
Touvier est conduit à Paris. Le juge Getty, qui a remplacé Claude Grelier, dispose soudainement d'une profusion de matière pour instruire l'affaire. Touvier a archivé sa propre vie, il a compilé ses déplacements, il a répertorié ceux qui l'ont aidé, mais aussi son état d'esprit, sa vie quotidienne. Le juge retrace ce parcours, cette demi-vie dans laquelle il s'est cloîtré, une existence de mort-vivant. D'abord, ses archives montrent un homme certain qu'il est persécuté, imaginant que les communistes, les résistants et les juifs préparent sa pendaison et l'enlèvement de ses enfants. Il n'en a rien été. C'est un homme hanté au quotidien par sa propre chute. « J'ai vécu 100 fois, 1000 fois peut-être, mon arrestation », écrit-il. « Et chaque fois, j'ai ressenti cette émotion qui vous laisse comme un grand vide au milieu du corps. Toute ma vie a été une agonie. » Un homme obsédé par la mort, qu'il a pourtant donnée. Un homme qui vit dans le noir, derrière ses volets fermés ou à l'ombre de monastères, comme dans sa propre tombe. Un homme qui va à la fausse nouvelle de son décès, jusqu'à assister à une messe des morts en s'imaginant que c'est pour lui qu'on la donne. On découvre aussi un manipulateur rodant sa stratégie, tordant son passé, répétant tellement ses mensonges qu'il finit par se berner lui-même. C'est le récit à la première personne d'un éternel fuyard, ne se rendant jamais, alors qu'il avait la possibilité d'alléger ses peines. On découvre aussi l'ampleur de l'aide dont il a bénéficié. Des dizaines d'hommes d'église, des couvents, des abbayes, des prieurés. Difficile de faire le compte de tous ceux qui lui ont fourni le gîte, le couvert et l'argent. C'était par charité chrétienne, se défendent-ils, tous. Mais il semble que cette charité soit donnée par des ecclésiastiques qui lui ressemblent, marqués à l'extrême droite, des anciens collabos, des nostalgiques de Vichy, voire des néo-nazis. L'historien René Raymond est chargé de faire la lumière sur cette aide. Et il présente son rapport en 1992.
Première observation, c'est que qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup d'ecclésiastiques, et même plus qu'on ne savait. En second lieu, ce n'est pas les mêmes de bout en bout. Pour ne prendre qu'un exemple, mais c'est celui qui s'impose ici, c'est Mgr Duquerre à qui on fait porter la principale responsabilité. Elle est considérable, mais il ne fait la connaissance de Touvier qu'en 1957. Donc il ne joue aucun rôle dans les protections, les interventions qui ont pu se produire en faveur de Touvier entre 1944 ou 47 et 1957. Et on pourrait multiplier les exemples, si bien qu'il n'y a pas continuité. On a beaucoup de monde passe dans ce paysage, mais ce n'est pas toujours les mêmes.
Le procès pour complicité de crimes contre l'humanité de Paul Touvier s'ouvre à Versailles le 17 mars 1994. Pour l'histoire, les audiences sont filmées. Ce n'est pas le procès d'un homme, c'est celui de Vichy. C'est scandalise son avocat. Les parties civiles ne le contredisent pas. Elles veulent effectivement faire celui de la collaboration. Touvier, 79 ans, apparaît alors à la face du monde. Un vieil homme impassible, pathétique, sans grand intérêt, lâche, qui semble n'avoir jamais refermé la page de l'occupation. Comme si les 50 années découlées n'avaient été qu'une longue parenthèse. Il répond par exemple à une question de Maître Jakubowicz, l'un des avocats des parties civiles.
Dans les dates importantes, dans la période qui nous occupe, je crains qu'il en manque une, et je souhaiterais qu'il soit demandé à l'accusé s'il se souvient ce qui s'est passé très précisément le 3 octobre 1940. La promulgation du premier statut des Juifs de France.
Ouais, ça m'a échappé.
Je souhaite bien sûr que la Cour et mesdames et messieurs les jurés puisse prendre acte de la réponse qui vient de lui être faite par l'accusé. Est-ce que l'accusé a une connaissance plus avérée et plus certaine du second statut des Juifs de France du mois de juin 1942 ?
Non plus, parce que c'était un sujet qui ne concernait pas.
Le 20 avril 1994, dans la nuit, après 5 semaines d'audience, le président de la Cour annonce le verdict. Touvier est reconnu complice de crimes contre l'humanité, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Un silence se fait, que seul perturbe les pleurs de sa famille. Alors Touvier lève piteusement la main en direction de sa femme, sans même qu'elle le voie. Il est le premier Français condamné pour crimes contre l'humanité. Maurice Papon sera le second. C'est dommage, dit René Zeisig, le fils de l'un des fusillés. C'est dommage d'avoir attendu 50 ans. Paul Touvier meurt 2 ans plus tard, le 17 juillet 1996, à la prison de Fresnes. Une haine s'est éteinte, titre Libération. La messe est célébrée à l'église intégriste de Saint-Nicolas du Chardonnay, à Paris. Le prêtre honore, je cite, son âme sensible, délicate et même nuancée. Mais le même prêtre n'a pas le courage de citer le 21e et dernier point du serment du service d'ordre légionnaire que Touvier, 50 ans plus tôt, avait pourtant prêté et qui disait, souvenez-vous, « Contre l'oubli des crimes, pour le châtiment des responsables. »
Just the wind, and you notice. what you and his can. If put to the test, would you step back from a line of fire? Hold everything back, all emotions sent aside. Convince yourself to be someone else, and look back from the world, your lack of confidence. What you choose to believe in dictates your rise or your fall. Dictates your rise or your fall. With no one else around you, no one to understand you, no one to hear your calls. Look through all your dark corners when you're backed up against a wall. Step back from a line of fire. Step back from a line of fire.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'affaire Paul Touvier, dont nous parlons avec Claude Grelier. Bonjour.
Oui, bonjour.
Ancien juge d'instruction, vous avez instruit l'affaire Touvier de 1985 à 1989. Vous arrive-t-il de repenser 30 ans après à cette affaire, à ce moment, j'imagine, intense de votre vie professionnelle?
Certes. Il y a eu un événement assez étonnant, c'est que le lieutenant-colonel Recordon, qui m'a téléphoné alors que je n'étais plus juge d'instruction, pour me faire connaître l'arrestation de Paul Touvier dans les circonstances qui ont été rappelées au cours de l'émission tout à l'heure. Donc voilà, il tenait à me faire part de cette arrestation qui à laquelle on ne croyait plus, ou en tout cas pendant très longtemps, comme vous l'avez dit, Monsieur Touvier se pensait vraiment très très bien protégé. Il l'était. Il l'était, c'est sûr.
Je vous pose une question personnelle, et après on passera à autre chose. Où faut-il aller puiser au plus profond de soi quand on est juge pour ne laisser aucune place à la haine quand on a en face de soi la figure de l'abjection absolue?
J'ai sans doute eu la chance de ne pas de quitter l'instruction avant l'arrestation de Paul Touvier.
Ah oui, c'est vrai.
Votre question... Votre question, certes, me paraît légitime, mais j'allais dire, même quelqu'un comme Touvier sait qu'il a tout intérêt à avoir de bonnes relations avec son juge, quelle qu'ait pu être l'horreur du crime ou les circonstances dans lesquelles il a été arrêté. Et je pense que ça a été une des forces de mon collègue Getty d'avoir entretenu au cours des interrogatoires, des relations qui restaient des relations de juge à inculpé. On arrive assez facilement, je dois dire, à se débarrasser de tout jugement moral sur ce qui s'est passé, sur les crimes qui sont en cause et qui sont instruits. Moi, j'ai pas le souvenir d'avoir, même dans des affaires criminelles horribles, il me semble que le juge garde assez facilement et normalement le recul nécessaire pour ne pas faire transpirer
son indignation,
son émotion. Oui, bien sûr. Son émotion.
Merci d'avoir répondu à cette question. Alors, il y a quelque chose de saisissant dans l'affaire Touvier, c'est qu'il est introuvable pendant 40 ans. Alors, on a l'impression quand même que la justice et la police ne fournissent pas non plus beaucoup d'efforts pour le trouver. Et finalement, quand vous y mettez sérieusement à le chercher, avec la gendarmerie, vous le retrouverez très, très rapidement. Comment expliquer cela?
Très rapidement, c'est
pas
très rapidement.
Par rapport en tout cas à ce qui s'est passé avant.
Oui. Eh bien, mais parce que je me rendais compte que ça a été rappelé aussi, le mandat d'arrêt n'avait pas été diffusé. Et il m'est arrivé, Moi-même, j'ai eu un concours de circonstances exceptionnelles. C'est que j'ai moi-même rencontré Touvier assis tranquillement sur un banc dans un square derrière Notre-Dame à Paris. Et nos regards se sont croisés. Et il s'est immédiatement levé et a disparu dans la foule. Donc j'avais la preuve qu'il circulait totalement librement au sein de la société française. Le petit sondage auquel je m'étais livré pour savoir si le mandat d'arrêt avait été diffusé m'avait appris le contraire. Donc là, j'avoue que là, c'est quand j'ai fait ce petit sondage, j'ai pris un commissariat au hasard, un commissariat de police et une gendarmerie au hasard aussi, et j'ai demandé à ces deux institutions si le mandat d'arrêt avait été diffusé. Tous les deux m'ont dit, ah ben non, on n'a rien au nom de Paul Touvier. Et donc là, la moutarde m'est montée au nez, c'est évident, depuis 40 ans. Bien avant le mandat d'arrêt délivré par Martine Anzani, à laquelle j'ai succédé, il y avait déjà des mandats d'arrêt qui dataient de 1947. Rien ne les avait rendus caducs, ces mandats d'arrêt. Donc, au bout de 40 ans, on se dit que c'est pas possible. Il y a une espèce de pied de nez à la justice et qu'il est temps d'essayer d'y mettre un terme.
Alors,
comme c'était la police qui avait la maîtrise de la recherche de Touvier, j'ai pensé évidemment à la gendarmerie, et avec les résultats finalement qui se sont trouvés tout à fait positifs. Ouais. Je dois dire que je rends encore hommage à Jean-Louis Recordon, qui a été un officier de gendarmerie extraordinaire.
Alors, il était protégé, Touvier était protégé par une partie de l'Église catholique, mais alors quand même, on l'a évoqué dans le récit, en 47, il est arrêté à Paris, interrogé par la police, il s'évade, on peut même pas dire qu'il s'évade d'ailleurs, c'est comme s'il était ressorti tranquillement. Est-ce qu'il a pu profiter de soutien au sein de l'État ou de la police?
Ah ben, non seulement au sein de la police, mais au sein de l'Église, vous l'avez rappelé. Oui. Je peux vous raconter une petite anecdote qui montre à quel point il était quand même proche de l'Église catholique, puisqu'on avait retrouvé une carte d'identité le concernant, et l'adresse qui était portée sur cette carte d'identité était 1 place Fourvière à Lyon. 1 place Fourvière à Lyon, c'est l'adresse de l'archevêché
de
Lyon. Donc voilà. Et quand je me suis moi-même rendu avec ma greffière à cette adresse, et le cardinal de Courtrai n'était pas là ce jour-là, mais voilà, ça a permis quand même là de mettre un coup de pied dans la fourmilière ecclésiastique, si j'ose ainsi m'exprimer.
D'accord pour l'Église, mais je vous posais la question de savoir est-ce qu'il aurait pu bénéficier de protection de la part de la police ou de l'État.
Mais c'est absolument évident, puisque d'une part, le mandat d'arrêt n'était pas diffusé. Or, il existe au sein de la direction centrale de la police judiciaire un service qui doit diffuser les mandats d'arrêt. C'est une obligation légale.
Alors, reste à savoir pourquoi.
Gravissime.
D'accord. Et reste à savoir pourquoi il aurait cette protection.
Parce qu'il était protégé par des organes politiques, des institutions politiques, allant jusqu'à au plus haut sommet de l'État. Souvenons-nous que la grâce qui lui a été accordée l'a été à l'encontre du rapport qui avait été demandé par le président de la République de l'époque à la direction des services de la chancellerie, la direction des affaires criminelles et des grâces. Et ce rapport concluait à ce que la grâce serait ressentie comme particulièrement choquante au regard de la gravité des crimes reprochés à Paul Touvier. Donc, quand on prend une décision qui va à l'encontre de celle que les services de l'État, en l'espèce donc la chancellerie, c'était le directeur des affaires criminelles et des grâces, c'était à l'époque Monsieur Pierre Arpaillange. Qui est devenu ministre après. Oui. Et il concluait sous sa signature au rejet de la demande de grâce qui était
et la raison profonde, elle résonne dans la déclaration de Georges Pompidou. Est-ce qu'on va continuer à parler d'une période où les Français ne s'aimaient pas? C'est ça, en fait.
Mais exactement. Donc, on peut citer aussi l'intervention, enfin le rôle d'un homme d'église qui s'appelait René Brouillet, qui avait été nonce apostolique, ou plus exactement représentant de l'Église de la France auprès du Saint-Siège.
Vous ne parlez pas de nonce.
Il avait l'oreille, évidemment, d'un certain nombre de hauts fonctionnaires ou même d'hommes politiques de premier plan. Donc, je pense que c'est allé très très haut dans le soutien de Touvier pour que la police finalement ne l'arrête pas. Soyons clairs.
Jean-Claude Relier, on va se retrouver dans deux minutes. On écrit. On écoute Green Tipping, Lost My Mind.
My own, find me in my zone, listening to tunes on my phone, getting stoned. If your energy's right, we probably tight. If not, I'm happy alone. I don't come out of fear, keep my enemies near. Yeah, the devil's inside you, my dear. Connections I'm feeling, if not, keep it moving. If it ain't genuine, what we doing? I ain't in your race, cause I value my space and the time that it takes to create. Can only try to be myself over nobody else as I battle these wars alone. Pay no attention to you, not the things that you do, cause you don't seem to want to relate. And all the time that I spend by myself brings me closer to earth, so I'm easy either way. Please don't try to hide what is rightfully mine from the skies. It's my own mind, I'll decide what resides and divides me inside. I said I got no fear, my only enemy's near. The demons inside you, let's make that real clear. We think that we know things, we got no idea. Only listen when it's easy to hear. I aim to your ways, cause I value my space and the time that it takes to create. Can only try to be myself over nobody else as I battle these wars alone. Pay no attention to you, not the things that you do, cause you don't seem to want to relate. And all the time that I spend by myself brings me closer to earth, so I'm easy either way.
France Inter. Affaires sensibles.
Jean-Claude Grelier, vous avez donc été juge d'instruction de cette affaire Paul Touvier pendant 4 ans. Alors, évidemment, un juge instruit sur un dossier, tout le dossier, rien que le dossier, mais est-ce que vous êtes servi de livre d'histoire? Est-ce que la partie étude de l'histoire, notamment celle de la collaboration, a constitué un élément important de votre travail?
Pas tellement. Je me suis surtout... j'ai travaillé autour de la recherche de Paul Touvier. Certes, je connaissais ce qui s'était passé à Lyon et ce qui était un centre de résistance et où la milice avait été particulièrement cruelle. Mais non, ce qui m'a préoccupé de façon très très intense et dans ce dossier, c'est la recherche de Paul Touvier et surtout de comprendre pourquoi et jusqu'où allait la protection dont il bénéficiait. C'était ça qui m'a le plus préoccupé. Je dois dire que la première pièce du dossier était essentiel pour comprendre cette affaire Touvier. C'était une photo qui était celle des sept cadavres, oui, des juifs assassinés à Rieux-la-Pape, donc en fin juin 44. Et parmi les sept que la police avait rapidement identifiés, les victimes ont été rapidement identifiées, mais pas toutes. La septième victime est restée anonyme, et on ne sait toujours pas qui c'est. Et c'était, d'après l'autopsie, c'était un jeune, probablement de 17 ans, en tout cas loin d'être majeur. Et cette photo, je crois que chaque fois qu'on ouvrait le dossier, c'était ce qui
motivait l'instruction.
Vous m'avez posé la question tout à l'heure de la façon dont le juge regarde un dossier et la façon dont il réagit presque, j'allais dire, émotionnellement. Et cette photo disait tout, quoi. Disait tout de l'absurdité de ces assassinats. Et de l'assassinat de cette personne qui ont été assassinées parce que juive. Et donc là, on se disait, mais ça fait 40 ans qu'il est recherché, ça peut plus durer. Voilà. Et donc, c'est ça qui m'a animé.
Oui, et c'est ça d'ailleurs le crime contre l'humanité, on assassine des personnes non pas pour ce qu'elles font, mais pour ce qu'elles sont. Il y a dans le dossier d'instruction de l'affaire Touvier un nom qu'on n'attend pas, Jacques Brel. Et qu'est-ce que Jacques Brel a à voir avec Touvier?
Je crois que c'était l'édition d'un disque que Brel avait interprété, enfin une chanson que Brel avait interprétée à la demande de Paul Touvier ou de son entourage. Là, mes souvenirs ne sont pas très précis, donc je ne pourrais pas vous en dire grand-chose, mais je sais qu'on s'était intéressé, notamment par l'intermédiaire, c'était au moment de sa grâce, cette question de l'intervention ou la participation de Jacques Brel dans les activités de Paul Touvier était apparue. Mais bon, je ne peux pas vous en dire vraiment.
Ça a l'air
plus
très, très indirect, en fait, de toute façon. Oui, très, très indirect. Oui. Dernière question. En 1992, la Chambre d'accusation de Paris statue sur l'affaire Touvier et rend un non-lieu. Alors, ce non-lieu est ensuite cassé et Paul Touvier est bel et bien jugé, heureusement. Mais comment expliquer ce non-lieu, cette espèce de réflexe? Non, on ne le juge pas. Comme si on disait non, on ne le juge pas, surtout pas.
Ah ben, je ne sais pas si c'est un réflexe. En tout cas, il y a 292 pages que j'ai conservées dans un tiroir. Et qui est en fait, non pas tant ce qui est reproché à Touvier, mais surtout une espèce de contextualisation des faits reprochés à Touvier qui s'inscrivent au fond dans la politique générale de Vichy. Donc finalement Vichy, on a retenu de ce non-lieu qui avait fait du bruit à l'époque, on s'en souvient. Il y avait cette phrase un peu ahurissante, le régime de Vichy était caractérisé par une constellation de bons sentiments. Alors on parlait des camps scouts, du travail.
Oui, et la figure paternelle du maréchal Pétain qui sauve la France, bien sûr.
Absolument. Donc, voilà.
On va malheureusement terminer cette conversation. Claude Grelier, elle était passionnante, mais l'heure, c'est l'heure, surtout en radio. Merci infiniment, en tout cas.
Je vous en prie.
Au revoir. Au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Paul Touvier, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Loïs Moreau.